Chapitre 26. La lune aurait déjà dû être à son zénith lorsque je m'agenouillai enfin auprès du dernier homme. Je dis « aurait dû », car elle n'était pas visible dans le ciel plombé. Comme si un linceul de nuages entendait protéger tous les morts de Grandengart. En réalité, il allait bientôt pleuvoir, je le sentais jusque dans mes os. Le dernier survivant tremblait de tous ses membres, et il avait du mal à respirer. C'était un boulanger nommé Joël. Tous les jours, il m'apportait une miche de pain sans jamais accepter de paiement. C'était sa modeste contribution, affirmait-il, au bien-être de la magicienne de la ville. Pour tout te dire, Joël avait un penchant pour moi. Bien entendu, il n'en a jamais parlé et il se contentait, pour me manifester son affection, de m'offrir sa miche de pain quotidienne. Un bon prétexte pour me voir, en plus de tout. Sa femme était morte en couche avant mon arrivée à Grandengart. Très seul et terriblement triste, il avait en lui quelque chose que j'aimais beaucoup. Sachant qu'il avait perdu son épouse et leur enfant mort-né, je ne me sentais pas autorisé à explorer ce sentiment. Comme mon rôle de magicienne m'y autorisait, je me contentais de prendre de ses nouvelles et de demander s'il avait besoin de quelque chose. Immanquablement, il répondait que tout allait bien, mettant ainsi un terme à la conversation. Au fil du temps, mon sentiment grandit, mais face à son deuil, je continuais à garder mes distances. Pour surmonter une telle perte, il faut beaucoup de temps et je refusais de précipiter les choses. Alors, bien que mourant d'envie de lui ouvrir mon cœur, je me taisais et lui m'apportais chaque jour sa miche de pain comme si c'était le seul lien qu'il avait pu établir avec moi. Quand je le découvris gisant sur le sol, j'étais épuisée, couverte du sang des suppliciés et à un souffle de craquer nerveusement. Reconnaissant Joël, je lui pris la main et tentai de puiser en moi la force d'achever une dernière victime. Quand j'ai serré sa main contre mon cœur, lui communiquant toute la tendresse dont j'étais encore capable, j'ai senti qu'il était dans un meilleur état que les autres. Avec un peu de chance, il pouvait être guéri. À la chiche lueur de la lune voilée par le linceul, je vis qu'il remuait les lèvres. Après lui avoir donné à boire un peu d'eau de ma gourde, je me penchai sur lui. Joël murmura qu'il était navré de me voir souffrir ainsi. Moribond, il avait le cœur serré par l'épreuve que je traversais. Bouleversé, je lui avouai avoir honte de ne pas avoir été là pour empêcher ces abominations. « Sais-tu ce qu'il me répondit ?» Il avait été là, lui, et il jurait qu'on ne pouvait rien faire contre des brutes pareilles. Il me confia que des sorciers accompagnaient les soldats. Si j'avais été là, affirmait-il, j'aurais fini attaché à un poteau, comme tous les autres, et je n'aurais pas pu les aider ensuite à mourir. Pour lui, tout était bien puisque j'avais eu l'occasion d'assister les gens de Grandengart. Isadora s'interrompit quelques instants, perdue dans ses souvenirs. J'ai dit à Joël que je pensais pouvoir le sauver. Tout en l'exhortant à tenir le coup, j'ai passé des heures penchées sur lui pour le guérir, dans la mesure de mes moyens. Mais je savais que mes seuls talents ne suffiraient pas. À Whitney, la ville la plus proche, des guérisseuses expérimentées sauraient finir le travail. Après avoir hissé Joël sur mon cheval, je pris donc la direction du nord, poussant notre monture autant que je l'osais. Un jour et une nuit en selle. En utilisant mon pouvoir pour augmenter la résistance du cheval et donner à Joël la force de s'accrocher à la vie. Nous n'étions plus très loin de Whitney lorsqu'il cria soudain de douleur. Ne parvenant plus à tenir en selle, il m'implora de le déposer sur le sol. De nouveau agenouillé près de lui, sa main dans la mienne, je dus me rendre à l'évidence. Le seul supplicié que je pensais pouvoir sauver venait de dépasser le point de non-retour. Malgré mon intervention et le soutien constant de mon pouvoir, ses lésions internes étaient trop graves, la vie l'abandonnait, un coup terrible après avoir espéré si fort, mais je ne pouvais plus rien faire pour l'empêcher de mourir. Alors que je me penchais vers lui, des larmes ruisselant sur mes joues, il me demanda de lui pardonner sa terrible erreur. Et quand je lui demandai de quoi il parlait, il répondit qu'il s'était bien trop accroché au souvenir de sa femme. Si fort qu'il l'avait aimée, elle n'était plus là, et il aurait dû surmonter son deuil et vivre pleinement le peu de temps qui lui restait, car il avait appris que je me taisais par respect de son chagrin. S'il m'avait avoué ses sentiments, et si je les avais partagés, nous aurions pu être heureux ensemble quelque temps. Mais il était resté lié à une morte plutôt que d'aller vers une vivante, l'inverse de ce qu'il aurait dû faire avant qu'il soit trop tard. En pleurant, il murmura qu'il regrettait de nous avoir privés de cette chance de bonheur, et maintenant que la nuit tombait à jamais sur sa vie, ajouta-t-il, il allait quitter ce monde sans avoir saisi sa seule chance d'être heureux. Pleurant à chaudes larmes, je lui soufflai que j'avais moi aussi commis une erreur, en n'allant pas vers lui. Au lieu de garder mes distances, j'aurais dû tenter de le réconforter tout en l'encourageant à recommencer à vivre. « S'il avait su que je ne l'aurais pas repoussé, souffla-t-il, tout aurait pu changer. » Mais comme un idiot, il s'était contenté de m'apporter une miche de pain chaque jour. Malgré mon désespoir, je ne pus m'empêcher de sourire de cette remarque. Mais il ajouta qu'en respectant son chagrin, j'avais fait montre d'une authentique compassion qu'il aurait aimé pouvoir me rendre un jour. Certain que toutes les victimes du massacre seraient accueillies par les esprits du bien, il murmura qu'il allait bientôt revoir sa femme. Il partait donc sans regret, à part celui de n'avoir pas eu le courage de vivre pour de bon ces dernières années. Mais un jour, quand mon temps sur cette terre s'achèverait, il savait que je rejoindrais mes chers protégés de Grandengarth, mon véritable foyer, et qu'il serait là pour m'accueillir et me guider jusqu'à la lumière du Créateur, en un lieu où les innocents n'ont plus rien à craindre et ne connaissent plus la douleur. Avant de mourir, Joël me demanda de prier pour le salut de toutes les victimes de la tuerie. Après leur calvaire, ces malheureux méritaient tellement de trouver la paix auprès des esprits du bien. J'ai juré d'utiliser mon pouvoir pour les guider sur le chemin du monde des esprits. Après m'avoir serré une dernière fois la main, Joël a souri, puis il s'en est allé à jamais. Toujours agenouillé, alors qu'un crachin se mettait à tomber, je me suis penché sur mon ami, et j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Pour lui, pour tous les morts, et pour tout ce qui aurait pu être si nous avions eu le courage de dire adieu au passé et de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Magda songea à sa propre expérience du deuil et à sa décision de continuer quand même. Ainsi, j'étais au bord de la route de Whitney, avec le cadavre de l'homme que j'aurais pu aimer. Derrière moi gisaient les ruines de Grandengarth et les dépouilles des gens que j'étais censé protéger, les amis que j'avais abandonnés. Magda posa une main sur le bras d'Isadora. « Tu ne les as pas abandonnés, mon ami. Les tueurs de sous la canne sont puissants et cruels. Joël ne se trompait pas, tu n'aurais rien pu faire. » N'assume pas la culpabilité qui devrait peser sur les épaules de ces chiens. Dans une situation pareille, bien peu de gens auraient eu ton courage. Tu as dispensé tant d'amour et de tendresse aux victimes. Ce que tu leur as donné, une mort digne, a une incroyable valeur. C'est ce que j'ai pensé au début. Mais en arrivant à Whitney, j'ai découvert que le cauchemar ne faisait que commencer.